Orgueil et préjugés, par Jane Austen, tome 4, chapitre 1er. Deux jours après le retour de leur père, Jane et Elizabeth, se promenant dans le verger derrière la maison, virent venir à elles la femme de charge de leur mère. « Je vous demande pardon, madame, » dit-elle à Jane, « mais je croyais que vous aviez reçu quelques bonnes nouvelles de la ville, et j'ai pris la liberté de venir vous le demander. »«
Vous vous trompez, Hill. » Nous n'avons pas reçu de nouvelles de la ville.
« Chère madame, » s'écria Mrs. Hill, extrêmement surprise, « ne savez-vous pas qu'il est arrivé un express de Mr. Gardiner pour mon maître ?» Les deux sœurs, trop pressées de savoir ce que c'était, ne lui en demandèrent pas davantage, et se mirent à courir vers la maison, traversèrent le vestibule, entrèrent dans la salle à manger, puis dans la bibliothèque. Mais leur père n'était nulle part. Elles allaient le chercher dans l'appartement de Mrs. Bennet, lorsqu'elles rencontrèrent le sommelier qui leur dit « Si ces dames cherchent mon maître, elles le trouveront près du petit bois où il se promène. » Sur cet avis, elles sortirent de la maison et coururent vers le petit bois. Jane n'était pas si leste qu'Elisabeth, qui arriva tout essoufflée auprès de son père en s'écriant « Ah, mon père, quelle nouvelle avez-vous reçue de mon oncle ?»«
J'ai reçu une lettre de lui par un express. »«
Quelle nouvelle donne-t-elle, bonne ou mauvaise ?»
« Que peut-on attendre de bon ?» dit-il en sortant la lettre de sa poche. « Peut-être désirez-vous la lire ?»
Elizabeth la saisit avec vivacité. Jane, qui était restée un peu en arrière, arriva alors. « Lisez-la haut, » leur dit Mr. Bennet, « car je sais à peine moi-même ce qu'elle contient. »«
Horatio Street, lundi le 2 août. Mon cher frère, je puis enfin vous donner des nouvelles de votre fille, et j'espère qu'elles vous procureront quelque satisfaction. » Samedi, peu de temps après que vous m'eûtes quitté, je fus assez heureux pour découvrir le lieu où se cachaient nos fugitifs. Je réserverai les détails pour le moment où nous nous reverrons. Il suffit maintenant que vous sachiez que je les ai découverts, je les ai en vue tous les deux.
« C'est donc comme je l'avais toujours assuré ?» s'écria Jane. « Ils sont mariés !»
Elizabeth poursuivit sa lecture.
« Je les ai vus tous les deux, ils ne sont pas mariés. » Et même il ne m'a pas paru qu'ils eussent l'intention de s'unir. Mais si vous voulez remplir les engagements que je me suis hasardé à prendre pour vous, j'espère qu'il ne se passera pas longtemps avant qu'il le soit. On vous demande d'assurer à Lydie par contrat sa part des 5 000 livres qui doivent revenir à vos enfants après votre mort et celle de leur mère, et en outre, de prendre l'engagement de lui donner pendant votre vie une rente de 100 guinées par an. Voilà les conditions auxquelles, après avoir tout considéré, je n'ai pas hésité d'acquiescer, d'après les pouvoirs que vous m'avez accordés. Je vous envoie ceci par un express, afin qu'il n'y ait pas de temps perdu pour recevoir votre réponse. Vous comprendrez facilement, par ces arrangements, que Mr. Wickham ne se trouve pas dans une position aussi désespérée qu'on le croyait généralement. Et je me trouve heureux de pouvoir ajouter que lorsque toutes ces dettes seront payées, il restera encore quelque argent qu'on pourra reconnaître à Lydie, outre sa propre fortune. Si, comme je l'espère, vous m'autorisez à terminer cette affaire en votre nom, je donnerai de suite à Haggerston les ordres pour dresser le contrat. Vous n'aurez point besoin de revenir à la ville pour cela. Restez paisiblement à Longbourn et comptez sur ma diligence et sur tous mes soins. Répondez-moi le plus tôt que vous pourrez et expliquez-vous clairement. Nous avons jugé plus convenable que votre fille sortît de notre maison pour aller se marier. Elle doit venir aujourd'hui demeurer avec nous. J'espère que vous approuverez cette mesure. Je vous écrirai aussitôt que la chose sera terminée. Votre etc., etc., Edward Gardiner. Est-il possible, s'écria Elizabeth lorsqu'elle lui finit la lettre, est-il possible qu'il l'épouse?
Wickham n'est cependant pas aussi corrompu qu'on nous le présentait, dit Jane avec joie.
« Mon cher père, je vous félicite de ces nouvelles. »«
Avez-vous répondu à cette lettre ?» demanda Elizabeth.
« Non, mais ce sera bientôt fait. » Elle l'engagea avec instance à ne pas perdre un instant. « Oh, mon cher père, » s'écria-t-elle, « retournons à la maison et écrivez tout de suite. Considérez combien le temps est précieux. »«
Permettez-moi d'écrire à votre place, » dit Jane. « C'est une peine pour vous. »«
C'est une très grande peine, » dit-il, « mais je dois le faire. »
En parlant ainsi, il se dirigea avec elle vers la maison. « Oserais-je vous demander si vous acceptez ces conditions ?»«
Les accepter ? Je suis seulement honteux qu'il demande si peu. Et cependant, c'est un homme. Oh oui, il faut qu'il se marie. Cela ne peut pas être autrement. Mais il y a deux choses que je voudrais savoir. L'une, c'est combien d'argent votre oncle a donné pour en venir à bout. Et l'autre, comment je pourrai jamais le payer.
« Donner de l'argent, mon oncle ?» s'écria Jane.
« Mon Dieu, monsieur, que dites-vous »
« Je dis qu'aucun homme, dans son bon sens, n'épousera Lydie pour le léger avantage d'avoir 100 guinées de rente pendant ma vie et 50 après ma mort. »«
C'est vrai, » dit Elisabeth. « Ses dettes sont payées et il reste encore quelque argent. Cela ne peut être dû qu'à mon oncle. Généreux, excellent homme. Je crains qu'il ne se soit bien dérangé pour cela. Une légère somme n'aurait pas suffi. »«
Non, » dit son père. « Et Wickham est un fou s'il l'épouse pour un solde de moins que 10 000 livres. Je serais bien fâché d'être obligé d'avoir une si mauvaise opinion de lui dès le commencement de notre parenté. »«
10 000 livres, grand Dieu ! Comment pourrez-vous jamais rembourser une pareille somme ?»
Mr. Bennet ne répondit point. Arrivé à la maison, le père entra dans son cabinet et les deux sœurs dans le salon à manger.
« Et ils seront vraiment mariés ?»
dit Elisabeth dès qu'elles furent seules.
« C'est étrange. » Nous devons en être bien satisfaites, quelque légère que soit la chance de bonheur qu'elle puisse attendre, quelque peu estimable que soit le caractère de son époux, nous devons cependant nous en réjouir.
Oh, Lydie, Lydie !
Je veux espérer, dit Jane, qu'il n'épouserait pas Lydie s'il n'avait pas une véritable tendresse pour elle, malgré tout ce que mon bon oncle eût pu faire pour l'aider à payer ses dettes. Je ne puis croire qu'il ait donné 10 000 livres. Il a 4 enfants. Il peut en avoir d'autres encore. Si nous pouvions savoir à combien se montaient les dettes de Wickham, et combien l'on attribuera à ma sœur, nous saurions alors exactement ce que mon oncle a fait pour elle, car Wickham n'avait pas un sol. Mais nous ne pourrons jamais reconnaître la bonté de mon oncle et de ma tante. La recevoir chez eux, la prendre sous leur protection dans la position où elle s'est mise, sont des sacrifices que des années de reconnaissance ne sauraient acquitter. Si tant de bonté ne la fait pas rentrer en elle-même, elle ne mérite pas d'être heureuse. Quel moment que celui où elle reverra ma tante. Il faudra faire tous nos efforts pour oublier ce qui s'est passé. J'espère et je crois qu'ils seront heureux. Wickham est revenu à de meilleurs sentiments. Son consentement d'épouser Lydie en est la preuve. Leur affection mutuelle les affermira dans la vertu. Et je me flatte qu'ils vivront d'une manière si sage, si raisonnable, qu'ils feront oublier leur conduite passée.
Leur conduite a été telle, répondit Elisabeth, que ni vous, ni moi, ni personne ne pourra jamais l'oublier. »
Elles pensèrent tout à coup que leur mère ignorait encore le contenu de la lettre de Mr. Gardiner. Elles rentrèrent dans la bibliothèque pour demander à leur père s'il ne fallait pas le lui apprendre. Il écrivit et répondit froidement, « Tout comme vous voudrez. Pouvons-nous prendre la lettre de mon oncle pour la lui lire ? Prenez tout ce que vous voudrez et allez-vous-en. » Elisabeth prit la lettre sur son bureau et elles montèrent chez leur mère où étaient Mary et Kitty. La lettre fut lue à haute voix. Mrs. Bennet pouvait à peine se contenir. Sa joie éclata lorsqu'elle entendit que Mr. Gardiner espérait que Lydie serait bientôt mariée. Elle augmentait à chaque ligne. Et maintenant, ses transports étaient aussi violents que ses craintes et son accablement l'avaient jamais été. C'était assez pour elle de savoir que sa fille serait bientôt mariée. Elle n'était troublée par aucune inquiétude sur son bonheur à venir, ni affligée par le souvenir de sa mauvaise conduite passée.
« Ma chère Lydie, s'écria-t-elle. Je la reverrai mariée. Mariée à 16 ans, c'est vraiment délicieux. Mon bon, mon excellent frère. Je pense qu'il arrangera le tout pour le mieux. Oh, que je languis de la revoir. Et ce cher Wickham aussi. Mais les habits de noces? Il faut que j'écrive à ma sœur Gardiner pour cela. Lizzie, descendez promptement vers votre père. Demandez-lui combien il veut donner pour son trousseau.
Attendez, j'irai moi-même, ce sera mieux.
Sonnez, Lizzie. Que la femme de chambre vienne. Je serai bientôt habillée.
Ma chère Lydie, comme nous serons heureuses lorsque nous nous reverrons. »
Jane voulut essayer de réprimer un peu la vivacité de ses transports en lui représentant les obligations que leur imposait la généreuse conduite de Mr. Gardiner.
« Nous devons en grande partie cette heureuse issue à son excessive bonté. Nous sommes persuadés qu'il a fait de grands sacrifices d'argent pour aider Wickham à payer ses dettes et à l'engager à épouser Lydie.
Eh bien, s'écria sa mère. « C'est fort juste. Qui ferait cela si ce n'était un propre oncle? Vous savez bien que s'il n'avait pas eu d'enfant, c'est moi et les miens qui aurions hérité de sa fortune. Et à part quelques présents, c'est la première fois que nous ayons reçu quelque chose de lui. Maintenant, je suis contente. Bientôt, j'aurai une fille mariée.
Mrs. Wickham, cela sonne bien. Elle a eu 16 ans au mois de juin dernier. Ma chère Jane, je suis dans une telle agitation que je ne pourrai sûrement pas tenir la plume. Je vous dicterai et vous écrirai pour moi. Nous conviendrons ensuite avec votre père de l'argent qu'il voudra donner, mais il faut commander tout de suite ce qui est nécessaire. » Elle allait s'occuper de calicots, de soieries, de mousselines, etc. et aurait tout de suite préparé un superbe trousseau si Jane ne lui avait pas fait comprendre, non sans peine, qu'il fallait auparavant consulter son père. Elle lui observa qu'un jour de retard n'était pas d'une grande importance. Et sa mère, trop heureuse dans ce moment pour être tout à fait aussi obstinée que de coutume, consentit à prendre patience. D'autres idées lui passèrent alors par la tête. « Je veux aller à Meryton dès que je serai habillée. Je veux apprendre moi-même ces bonnes nouvelles à ma sœur Phillips. En revenant, je passerai chez Lady Lucas et chez Mrs. Long. Kitty, descendez et demandez la voiture. Une promenade me fera beaucoup de bien, j'en suis sûr. Mes enfants, avez-vous quelques commissions à me donner pour Meryton? Arrivez donc, Hill. Ma chère Hill, savez-vous les bonnes nouvelles? Miss Lily va être mariée, et vous aurez un bol de punch pour vous réjouir le jour de ses noces. » Mrs. Hill commença à exprimer toute sa joie et fit toutes ses félicitations. Elisabeth, oppressée de tant de sottises, courut se réfugier dans sa chambre où elle put s'abandonner à ses réflexions. La situation de la pauvre Lydie était bien fâcheuse, mais il fallait se féliciter qu'elle ne fût pas pire encore. Elle le sentait bien, et quoiqu'elle ne pût espérer de voir sa sœur heureuse dans l'avenir, cependant elle bénissait le ciel de ce qu'elle avait échappé au plus grand des malheurs.